Vous écoutez Radio France Internationale, il est 15h à Berlin et à Paris. 14h en temps universel, le temps de retrouver Florent Guignard. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Et à la une de ce journal, une question. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah va-t-il tenir? Question posée quelques heures après l'entrée en vigueur de cette trêve annoncée par les États-Unis et la France et entrée en vigueur à 4h du matin, heure locale. Également, dans ce journal, un rapport accablant contre l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, accusé d'avoir tout simplement participé activement à un projet de coup d'État après l'élection du président Lula en 2022. Et puis on entendra aussi dans ce journal un ami de l'écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, emprisonné en Algérie. Il risque la prison à perpétuité dans 10 minutes. Après ce journal, vous retrouverez le club de C'est pas du vent. C'est l'un des premiers signes visibles de la trêve acceptée par Israël. La fin des bombardements sur le Liban, les habitants reviennent en masse dans la banlieue sud de Beyrouth, le fief du Hezbollah, l'une des cibles privilégiées de l'armée israélienne depuis 2 mois. Le mouvement islamiste libanais annonce d'ailleurs, maintenant que les bombardements ont cessé, que des funérailles populaires et officiels sont en préparation pour Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, tué par une frappe israélienne. Ce cessez-le-feu, il prévoit aussi un retrait du Hezbollah et de l'armée israélienne du Sud-Liban. Et l'armée libanaise doit renforcer sa présence. C'est ce qu'elle annonce il y a un instant. Alors ce cessez-le-feu, il est prévu dans un premier temps pour 6 mois. Est-ce une paix durable qui se dessine entre Israël et le Hezbollah? Voici la réponse très nuancée de Nadim Houri. Il est le directeur exécutif du groupe de réflexion Arab Reform Initiative, avocat spécialisé dans les droits humains.
Dans cet accord, il n'y a pas de confiance entre les Israéliens et le Hezbollah. Israël a reçu des garanties des Américains dans une lettre annexe à l'accord lui permettant d'agir si elle trouve que l'armée libanaise, la FINUL, donc les troupes onusiennes, ainsi que les 2 observateurs internationaux, notamment la France et les États-Unis, qui sont censés s'assurer de la bonne exécution de cet accord, ne prennent pas les mesures nécessaires. Donc je pense que les 60 prochains jours vont vraiment être un test de est-ce qu'on va pouvoir bâtir une certaine confiance. Je pense que les ingrédients sont là, il va falloir que toutes les parties y travaillent, mais je pense que c'est le seul moyen de revenir à un cessez-le-feu. J'espère qu'il sera pérenne sur cette frontière.
Nadim Houri du groupe de réflexion Arab Reform Initiative, il était l'invité de RFI Midi au micro de Nemo en Peace. De son côté, le Hamas à Gaza se dit prêt, lui aussi, à une trêve. Alors que les frappes israéliennes ont encore fait 15 morts ce matin, selon la défense civile palestinienne, à Gaza, des morts, des blessés et des malades, et une opération humanitaire que vient de mener la Jordanie. Des enfants atteints d'un cancer ont été évacués pour être soignés dans un hôpital d'Amman. Reportage de Mohamed Erami.
La Jordanie a évacué plus de 50 enfants malades de Gaza, la plupart atteints de cancer. Cette semaine, un groupe de 11 enfants est arrivé à Amman, transporté par l'armée de l'air jordanienne. Khaled fait partie de ce groupe. Il est désormais soigné à l'hôpital Hussein.
Nous avons quitté Gaza dans des conditions très difficiles, laissant derrière nous une situation extrêmement dure. Nous remercions le royaume hachémite de Jordanie de nous avoir aidés à quitter Gaza et de nous permettre de poursuivre notre traitement.
L'hôpital Hussein est calme, mais l'atmosphère est lourde. Munteen El-Hurat, directeur du service de cancérologie, précise que le gouvernement jordanien prend en charge tous les frais, traitement, logement, nourriture. Le soutien psychologique et social est également assuré. Les enfants et leurs familles sont accompagnés dans leur parcours.
Notre soutien envers le peuple de Gaza est constant, sous les directives du roi Abdallah II. Notre aide est multiple, médicale, alimentaire et psychologique.
Avant le 7 octobre 2023, la Jordanie soignait plus de 5000 patients atteints de cancer à Gaza. Depuis le début de la guerre, le contact avec ces malades a été perdu. Cette opération marque la reprise timide mais significative de l'aide sanitaire de la Jordanie à Gaza. Mohamed Erami, Amman, RFI.
Un rapport de la police brésilienne de 800 pages, accablant pour Jair Bolsonaro, l'ancien président du Brésil, accusé d'avoir participé activement à un projet de coup d'État en 2022 après l'élection de Lula à la tête du pays. Écoutez ce qu'en dit Odilon Caldeira Neto, coordinateur de l'Observatoire de l'extrême droite à l'Université fédérale de Juiz de Fora au Brésil.
La gravité de cette affaire ne tient pas seulement à la tentative de coup d'État, bien que l'idée même d'en préparer un soit suffisamment grave. Cela reste toutefois cohérent avec la trajectoire politique de Jair Bolsonaro. Mais le fait que le plan d'exécution comprenait des détails sordides, tels que la possibilité d'empoisonnement, d'assassinat et d'utilisation d'armes lourdes, non seulement contre Lula, mais aussi contre le vice-président élu et le juge à la Cour suprême, cela montre qu'il s'agit d'un événement sans précédent. Il est sans précédent d'un point de vue juridique et politique, mais aussi, je dirais, d'un point de vue moral. Ces accusations démontrent le degré d'intensité du radicalisme et le caractère antidémocratique de Bolsonaro et de ceux qui l'ont soutenu.
Odilon Caldeira Neto de l'Observatoire de l'extrême droite à l'Université brésilienne de Juiz de Fora avec Lila Olkinuora. On va maintenant revenir dans ce journal sur 4 jours de tensions et d'affrontements à Islamabad au Pakistan, affrontements entre la police et des sympathisants de l'ancien Premier ministre Imran Khan qui est en prison. Il demandait sa libération, bilan 1 000 000 d'arrestations, 5 membres des forces de l'ordre tués. Et ce matin, le calme semblait être revenu dans la capitale pakistanaise, Aïk Schmidt.
Des employés municipaux dégagent les cendres et les débris pour faire place nette. Les policiers anti-émeutes quittent le quartier gouvernemental des Chowk car les militants du parti Tehreek-e-Insaf PTI ont battu en retraite dans la nuit. Avec à leur tête l'épouse d'Imran Khan, Bushra Bibi, tout juste sortie de prison. Aux rumeurs selon lesquelles elle et un autre proche de l'ex-premier ministre, le gouverneur Ali Amin Gandapur, auraient été arrêtés. Le ministre de l'intérieur, Mohsin Naqvi, a répondu sur un ton moqueur « Ils ont fui ». L'ancienne star de cricket, Imran Khan, qui tire depuis sa cellule les ficelles de ce mouvement demandant sa libération, risque de sortir affaibli par ce bras de fer avec le gouvernement. Le pouvoir en place, soutenu par la toute-puissante armée, ne semble pas être ébranlé par ses appels répétés au soulèvement.
RFI 15h08 à Paris, la France juge inacceptable l'arrestation sans fondement de l'écrivain Boualem Sansal, écrivain algérien qui a reçu la nationalité française il y a quelques mois. Il a été placé en détention en Algérie, il risque la prison à vie alors qu'il a 80 ans. La société civile française se mobilise, le monde des arts à l'image de son ami Jacques Ferrandez.
Boualem, c'est un homme de paix. Moi, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Je ne connais pas quelqu'un de plus doux que lui. C'est quelqu'un extrêmement mesuré, extrêmement pacifique. Enfin, vous voyez, ça fait 15 ans qu'il me disait « mais il faut que je quitte l'Algérie, mais je ne peux pas m'y résoudre parce que j'ai une légitimité en tant qu'écrivain pour résister à ce qui se passe en Algérie de l'intérieur. » Il disait d'ailleurs « c'est pas à moi de partir, c'est eux qui doivent partir, vous voyez, en parlant des dirigeants. » Il y a une épée de Damoclès permanente sur les intellectuels, sur ceux qui prennent la parole. Ils peuvent être arrêtés, relâchés dans la journée, ou ils peuvent être arrêtés, jugés, condamnés, certains à des peines de prison. Ils critiquaient l'islamisme en général, alors en Algérie en particulier, mais aussi en France. Ils déploraient la manière dont, à travers les frères musulmans, à travers des mouvements, tout ça est en train de s'installer en France. Lui, enfin, je veux dire, il a payé pour le savoir aussi. En Algérie, il y a eu quand même... on dit 200 000 morts pendant cette guerre civile.
Les années 90, la décennie noire.
La décennie noire. Alors, ce qui est aujourd'hui en Algérie est quasiment tabou. Enfin, aujourd'hui, on parle d'islamophobie, etc. Vous voyez, mais Boualem, il sait très bien de quoi il parle, en l'occurrence, quoi.
L'auteur français Jacques Ferrandez au micro d'Isabelle Chenu, 15h10 à Paris. Fin de ce journal. Dans un instant, sur RFI, le club, c'est pas du vent.